Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de faire venir mon ami Nicolas Daute-Pouillard, qui est évidemment, comme ça se voit, membre de la jeune génération des chercheurs, puisque moi je suis maintenant senior, et qui entretient la flamme de ce que je pourrais appeler la palestinologie. Donc science qui connaît des hauts et des bas, comme la cause palestinienne elle-même. Mon ami a travaillé sur l'histoire des mouvements, ou du mouvement, justement, c'est ça son sujet, national palestinien, éventuellement en travaillant sur des groupes ou des sous-groupes, etc. Et l'un des points de sa problématique a été aussi la relation très complexe que les mouvements islamistes palestiniens et les mouvements de la gauche palestinienne ont pu entretenir, et pas récemment seulement, mais ces dernières décennies. Et alors, l'occasion de le faire venir, puisqu'il habite Beyrouth, était la sortie de son livre « La mosaïque éclatée », une histoire du mouvement national palestinien de 1993 à 2016 chez nos amis de Sinbad Actes Sud. C'est un travail totalement différent de ce que j'ai fait moi, puisque moi j'ai fait la question de Palestine, c'est-à-dire le dossier palestinien dans le jeu des relations internationales, des rapports de force, etc. Tandis que son orientation spécifique est celle du mouvement national palestinien en tant que jeu de force politique sur une cause, et la situation palestinienne fait que les Palestiniens se trouvent, disons, dans une configuration, dans un rapport totalement différent de ceux des autres Arabes dans leur histoire et dans leur organisation politique. Nicolas, je te cède la parole.
Merci beaucoup, Henri, pour cette invitation. C'est un très grand plaisir, naturellement, de se retrouver ici au Collège de France. Je me contenterai entre guillemets, surtout de présenter les grands axes de cet ouvrage, donc, qui porte sur le mouvement national palestinien, qui pose aussi la question, y a-t-il encore un mouvement national palestinien, c'est-à-dire est-ce qu'il y a quelque chose d'équivalent à ce qu'on avait connu dans les années 1970-1980, où le mouvement national palestinien s'incarnait pour l'essentiel dans un nom, qui était l'Organisation de libération de la Palestine, dans laquelle il y avait plusieurs organisations politiques, mais l'Organisation de la Palestine unifiée. Aujourd'hui, on est plutôt face à un mouvement national palestinien très éclaté, très divisé. Hein. C'est la division notamment entre le Fatah et le Hamas. C'est d'autres divisions internes, je reviendrai dessus, des divisions autour de la crise syrienne, des divisions internes au Fatah. Donc, c'est aussi un livre qui questionne cette appellation, je dirais, de mouvement national palestinien, en répondant malgré tout de manière positive à cette question. Parler du mouvement national palestinien aujourd'hui, je dirais aujourd'hui même, 30 novembre, ça fait d'autant plus sens que, comme vous le savez, il y a le congrès du Fatah qui se tient, son septième congrès. Le Fatah est un parti né en 1959, sous la direction à l'époque de Yasser Arafat, de personnages assez connus. Beaucoup sont décédés ou ont été assassinés, comme Abu Jihad et Abu Iyad, donc c'est un ancien mouvement. Il tient aujourd'hui son septième congrès, ces jours-ci. Il devrait élire une nouvelle direction à la fin de la semaine. Il ne devrait pas y avoir beaucoup de surprises, puisque Mahmoud Abbas, l'actuel président de l'autorité nationale palestinienne, et également président de l'Organisation de libération de la Palestine, devrait être reconduit comme dirigeant du Fatah. On regarde quand même avec une certaine attention ce congrès qui va peser dans les prochains mois, notamment dans les relations avec le Hamas. Première question, pourquoi ce livre? Parce que d'abord, ce livre n'était pas une idée que j'avais à l'origine, j'avais pas l'idée de l'écrire. Ce livre est une commande, et c'est une commande à l'origine de l'Institut des études palestiniennes, puisque c'est un livre qui est écrit en copublication avec Actes Sud et l'Institut des études palestiniennes. L'Institut des études palestiniennes, je me permets de faire leur publicité, c'est un vieil institut de recherche palestinien qui est basé à Beyrouth, qui est basé à Ramallah, qui est basé dans la région historiquement, qui comprend des chercheurs palestiniens et non palestiniens. Et l'Institut des études palestiniennes, il y avait 2 ans, m'avait contacté en me disant, est-ce que tu voudrais écrire un livre avec nous et avec Actes Sud sur l'histoire du mouvement national palestinien depuis 1993, c'est-à-dire depuis les accords d'Oslo. Et quand on dit écrire un livre sur l'histoire du mouvement national palestinien, c'est dire aussi qu'il y avait un petit manque, peut-être, alors je ne prétends pas avoir rempli ce manque, hein, ce n'est pas un bouquin immense, hein, ce que j'ai écrit, c'est un petit essai, on va dire, mais c'est vrai que la majorité des études sur la question palestinienne ces dernières années se sont concentrées, par exemple, sur les territoires palestiniens, sur l'autorité nationale palestinienne, qui est née donc, à la suite des accords d'Oslo, qui est une entité proto-étatique, hein, mais qui n'est pas complètement souveraine sur son propre territoire. Il y a eu des études sur les camps de réfugiés palestiniens, il y a eu des études sur les ONG palestiniennes, il y a eu des études sur le Hamas, il n'y a pas beaucoup d'études, hélas, sur le Fatah, il y a très peu d'études ou plus d'études sur la gauche palestinienne. Mais grosso modo, voilà, on avait un peu des études ces dernières années sur des sujets très précis quant à la question palestinienne, mais ce que voulait l'Institut des études palestiniennes, quand ils sont venus me voir, c'était est-ce que tu peux faire quelque chose de synthétique sur le mouvement national, c'est-à-dire sur les débats stratégiques, sur les débats politiques du mouvement national. Et quand on dit les débats stratégiques, ce sont les débats stratégiques des organisations politiques, en premier lieu, les organisations politiques qui composent l'OLP, et les organisations politiques qui sont également en dehors de l'OLP. Donc c'était un peu un livre qui voulait, je dirais, répondre... à ce manque, hein, je n'ai pas la prétention qu'il répond complètement au manque, mais voilà, c'est un petit essai qui essaye de poser cette question du mouvement national, en sachant qu'en français, l'un des derniers ouvrages en français sur la question du mouvement national palestinien, c'est celui de Alain Gresh, qui était paru en 1983, qui s'appelait OLP, Débat et stratégie, et qui m'a beaucoup intéressé, parce que justement, je m'intéresse en premier lieu au débat stratégique et au débat politique. Deuxième question, pourquoi ce titre ? La mosaïque éclatée. Déjà, une mosaïque, c'est pas quelque chose pour moi de péjoratif, c'est quelque chose d'assez joli. Quand j'ai parlé de mosaïque, c'est avec cette idée que aujourd'hui comme hier, le mouvement national palestinien a malgré tout quelque chose de positif, c'est justement son aspect mosaïque qui veut dire son aspect, je dirais, pluriel. Toujours, historiquement, dans le mouvement national palestinien, contrairement à d'autres modèles, contrairement par exemple au modèle, on va dire, vietnamien, avec le Front de Libération Nationale vietnamien, contrairement au modèle algérien, avec le Front de Libération Nationale algérien, contrairement à beaucoup de modèles de ce qu'on avait appelé les mouvements de libération nationaux, le mouvement de libération nationale palestinien a toujours été composé de plusieurs organisations politiques et a toujours été traversé, je dirais, de débats tactiques, de débats stratégiques, parfois difficiles, il y a parfois eu des oppositions extrêmement complexes, mais si on prend depuis les années 1960, il y a eu toutes les tendances dans le Fatah, à l'époque, au sein même de Fatah, s'agrégeaient des gens par exemple venus de la gauche, s'agrégeaient des gens venus des frères musulmans, pour certains qui avaient quitté les frères musulmans, s'agrégeaient des gens qui n'avaient aucune idéologie particulière, ni droite, ni gauche, ni conservateur, ni pas conservateur, qui se disaient juste on veut militer dans un mouvement de libération nationale qui va s'appeler le Fatah. Et puis à côté du Fatah, on a eu toutes les tendances. On avait la gauche avec le Front populaire et le Front démocratique, on avait le Parti communiste, on avait les nationalistes arabes, qu'ils soient bassistes, pro-syriens, pro-irakiens ou nassériens. Et jusqu'à aujourd'hui, on trouve finalement ce pluralisme historique existe encore au sein du mouvement national. Il y a absolument toutes les tendances, et on peut dire des fois que la Palestine, c'est un espèce de miroir du monde arabe, en ce sens, puisque au sein du mouvement national, au sein de ses organisations politiques, existent toutes les idéologies. Mais c'est une mosaïque qui, aujourd'hui, est profondément éclatée. Quand je dis qu'elle est profondément éclatée, ça ne veut pas dire que par le passé, il n'y a pas eu d'opposition chez les Palestiniens. Il y a eu des oppositions parfois même très violente. Au début des années 1980, entre les pro-régimes syriens et les anti-régimes syriens, les affrontements interpalestiniens, notamment dans la région de Tripoli, au Liban, ont fait plusieurs dizaines de morts. Il y a eu des passages très durs. Mais c'est vrai que depuis 1993, on voit qu'il y a une espèce de crise générale de ce mouvement national, une espèce de crise, je dirais, structurelle. Il y a aujourd'hui une OLP qui n'est pas renouvelée, qui n'a pas tenu de nouvelles élections internes. Il y a beaucoup de partis extrêmement forts, comme le Hamas, par exemple, qui sont en dehors de l'OLP. Il y a des partis qui se réclament des accords d'Oslo, il y a des partis qui sont contre les accords d'Oslo, il y a des partis qui soutiennent l'autorité nationale palestinienne et des partis qui sont contre l'autorité nationale palestinienne. Il y a cet affrontement, je dirais, cette coupure verticale entre le Fatah et le Hamas, notamment depuis juin 2007, puisqu'en juin 2007, si vous vous souvenez, le Fatah et le Hamas s'affrontent très violemment dans les rues de Gaza, notamment. Depuis, la réconciliation interpalestinienne entre le Fatah et le Hamas n'est toujours pas advenue. Le Fatah et le Hamas, tous les 6 mois, discutent l'un et l'autre d'un projet de réconciliation. Tous les éléments sont sur le papier, c'est-à-dire ils disent qu'il faut qu'on tienne de nouvelles élections législatives et présidentielles, il faut un gouvernement d'union nationale, il faut des forces de sécurité communes. On connaît les éléments de la réconciliation entre le Hamas et le Fatah. Ils sont écrits, ils sont présents dans différents documents, mais cette réconciliation n'est toujours pas advenue, ce qui fait qu'il y a une division verticale au sein du mouvement national entre le Hamas et le Fatah, qui est aussi une division géographique, hein, forcément, division géographique, puisque le Hamas tient la bande de Gaza pour aller vite. interdite et que le Fatah, on va dire, tient plutôt la Cisjordanie. Donc on a toutes ces divisions, d'où un peu, je dirais, ce titre de mosaïque éclatée. Et quand on dit mosaïque éclatée, je dirais que ce mouvement national palestinien qui aujourd'hui a l'image d'une mosaïque éclatée, il est aussi, on pourrait dire, à l'image de la Palestine elle-même, puisque la Palestine est elle-même une mosaïque éclatée. Les territoires palestiniens, notamment la Cisjordanie, c'est une mosaïque éclatée qui est traversée de routes de contournement, de colonies, de barrages militaires. C'est-à-dire, c'est un territoire lui-même dans lequel il est très difficile de circuler. La bande de Gaza et la Cisjordanie sont divisées. Il y a la diaspora palestinienne du Liban et de Jordanie avec ses réfugiés. Il y a la diaspora palestinienne d'Europe, la diaspora palestinienne d'Amérique latine. Donc, gardez toujours à l'idée aussi que si ce mouvement national palestinien est éclaté, c'est aussi que son propre territoire, sa propre sociologie, sa propre population elle-même est éclatée. Pourquoi ensuite avoir choisi comme période temporelle 1993-2016 ? 93, comme vous le savez, c'est les accords d'Oslo, tout simplement. Et ces accords d'Oslo, c'est à partir de là, je pense, qu'a commencé véritablement cette division verticale, structurelle, du mouvement national palestinien. Puisque qu'est-ce qui se passe en septembre 1993 ? C'était déjà un peu amorcé avant avec la conférence de Madrid en 1991. Mais qu'est-ce qui se passe en septembre 1993 ? Il y a, je dirais, l'avant-scène, c'est-à-dire ce qu'on a vu à l'époque, ou ce qu'on a voulu voir, ou ce qu'on a voulu considérer, c'est-à-dire on a voulu voir en priorité Yasser Arafat sur le parvis de la Maison-Blanche avec Bill Clinton qui serre la main de Shimon Peres et de Yitzhak Rabin. On a voulu voir Yasser Arafat avec Mahmoud Abbas, tous deux serrant la main des représentants israéliens. Ça, c'était l'avant-scène. Et puis, il y a ce qui se passait ailleurs, qu'on n'a pas voulu voir, ou que certains ont vu, mais qu'on n'a pas retenu comme quelque chose de principiel. Il y a ceux qui sont opposés aux accords d'Oslo à l'époque. Et ceux qui sont opposés aux accords d'Oslo, contrairement à ce qu'on croit, ils étaient très nombreux. Et ils étaient représentés par des partis très représentatifs et très implantés dans les camps de réfugiés, dans la population palestinienne. Donc on a une coupure verticale en septembre 1993. L'avant-scène, je dirais, ce qu'on a voulu voir, voilà, c'est le parvis de la Maison-Blanche avec Yasser Arafat, président de l'OLP, qui fait cet accord donc, avec les Israéliens. Et puis il y a de côté, le même mois, à Damas, dans le camp de réfugiés de Yarmouk, qui est le principal camp de réfugiés palestinien en Syrie, enfin qui était le principal camp de réfugiés palestiniens en Syrie, puisque toute une partie du camp de Yarmouk a été détruite depuis 2 ans. À Yarmouk, en septembre 1993, se réunissent 10 partis palestiniens, et pas des moindres, le Hamas, le djihad islamique palestinien, qui est la seconde organisation islamique palestinienne, le Front populaire pour la libération de la Palestine, le Front démocratique pour la libération de la Palestine, et plusieurs autres petits partis, essentiellement nationalistes arabes, et eux, officiellement, s'opposent aux accords d'Oslo. Ils créent quelque chose d'alternatif à l'époque à l'OLP, ils créent ce qui s'appelle une alliance des forces palestiniennes, Tahalouf, qu'on va appeler jusqu'à aujourd'hui l'AFP, ça existe toujours, même si elle a été affaiblie. Et donc, à l'époque, il y a cette coupure structurelle avec ces deux images, je dirais, très fortes. D'un côté, Washington, la Maison Blanche, et de l'autre côté, le camp de réfugiés palestiniens de Yarmouk, avec la constitution de cette alliance des 10. Et donc, une forte opposition aux accords d'Oslo. Je dis forte opposition parce que le Hamas, à l'époque, ce n'est déjà pas rien. C'est une organisation très forte et qui va ne faire que monter, par ailleurs, après, dans les années 1990. Et les oppositions aux accords d'Oslo, à l'époque, elles sont très nombreuses. Et ce n'est pas un débat entre les partisans de la paix et les partisans de la guerre. Et ce n'est pas un débat entre les colombes et les faucons. Ça, c'est quelque chose de tout à fait idéaliste de croire ça, puisque beaucoup de partisans de la théorie de deux États, beaucoup même d'anciens négociateurs palestiniens, sont contre les accords d'Oslo. C'est le cas à l'époque de Hanan Ashrawi, c'est le cas à l'époque de Haider Abdeshafi, qui était négociateur palestinien à la conférence de Madrid en 1991, et qui pourtant sont aussi contre les accords d'Oslo. À l'époque, Edouard Saïd, une autre personnalité assez connue, intellectuel palestinien, qu'on ne peut pas qualifier d'ultra-radical quand même, est aussi contre les accords d'Oslo. Et le débat à l'époque autour des accords d'Oslo n'est pas tant un débat sur est-ce qu'il faut la paix ou est-ce qu'il ne faut pas la paix. C'est pas un débat non plus sur est-ce qu'il faut deux États, israéliens et palestiniens côte à côte. C'est un débat stratégique, véritable, sur quel est le contenu des accords d'Oslo et est-ce que nous sommes prêts à voter pour ces accords. À l'époque, il y a grosso modo 2 lignes. Il y a la ligne, je dirais, de Yasser Arafat, qui est une ligne extrêmement pragmatique, qui dit qu'effectivement, les accords ne sont pas complètement satisfaisants, mais que dans le rapport de force mondial à l'époque, avec la chute de l'Union soviétique, avec le manque de soutien qu'ont les Palestiniens au niveau international, il faut signer ces accords, il faut derrière également un appui des États-Unis dans le rapport de force mondiale à l'époque, et qu'avec ces accords, on pourra créer une autorité nationale palestinienne dans les territoires. On pourra donc avoir une petite base pour construire quelque chose. On va pouvoir faire revenir les exilés de Tunis, hein, les exilés de l'OLP qui sont à Tunis vont pouvoir revenir dans les territoires. Et donc l'avis du Fatah, l'avis de la majorité du Fatah, l'avis de la majorité de l'OLP, c'est de dire peut-être que ces accords ne sont pas satisfaisants. Aucun accord, en général, n'est tout à fait satisfaisant. C'est le principe d'un accord. Mais c'est une base pour construire quelque chose et pour construire l'embryon d'un État dans les prochaines années. Donc la direction de l'OLP et Yasser Arafat, à l'époque, sont prêts à faire ce pari. L'autre opinion, c'est l'opinion donc des autres organisations palestiniennes, ils disent ce sont des accords tout à fait injustes qui vont, que nous allons payer, puisque ces accords évacuent trois questions principales. Premièrement, la question de la souveraineté palestinienne sur la Jérusalem arabe, c'est-à-dire sur Jérusalem-Est. Deuxièmement, évacuent plus ou moins la question du droit au retour des réfugiés et de l'application de la résolution 148. Et troisièmement, ne résout pas le dossier de la colonisation. Et vous savez que le dossier de la colonisation, notamment en Cisjordanie, est le dossier le plus, disons, est le dossier le plus sensible actuellement avec celui de Jérusalem. Et effectivement, la colonisation des territoires occupés et plus particulièrement la colonisation de la Cisjordanie ne vont pas s'arrêter avec les accords d'Oslo. C'est quelque chose que vous disent les Palestiniens aujourd'hui quand on va dans les territoires occupés. Nous n'avons jamais vu les véritables fruits des accords d'Oslo, puisque de 1993 à 2000, et puis après, nous n'avons vu que des colonies se construire. C'est aussi une réalité aujourd'hui qui a joué aussi dans ce sentiment d'échec des accords d'Oslo. Donc à l'époque, on a un mouvement qui est divisé radicalement. C'est pour ça que je fais donc commencer hein, ce livre, La mosaïque éclatée, à partir de 1993. Après, bien sûr, il va y avoir d'autres divisions dont je parle dans l'ouvrage, un ouvrage que je n'ai pas fait de manière chronologique, hein, pour ceux qui l'ont lu ou pour ceux qui vont le lire. En même temps, logiquement, si vous avez compris ce que je vous raconte aujourd'hui, vous n'aurez pas besoin de le lire, parce que c'est quand même un gros résumé que je vais vous faire, donc vous avez gagné du temps. Un livre dont je n'ai pas fait...
Quand même.
Pardon ?
Ils peuvent l'acheter.
Vous pouvez l'acheter par solidarité, par solidarité, par soutien. Voilà. Un livre donc, que je n'ai pas composé de manière chronologique, en disant qu'est-ce qui s'est passé de 93 à 2000, etc. On aurait pu, hein, j'aurais pu faire... On connaît les grandes étapes. Les grandes étapes, c'est 93-2000, on va dire, l'implantation des accords d'Oslo, une implantation échouée. 2000-2006, on va dire, c'est la période de la seconde intifada, les Palestiniens et les Israéliens se disputent pour savoir quelle est la date exacte de fin de la seconde intifada. Certains disent c'est la mort de Yasser Arafat en 2004, d'autres disent c'est le coup de force de Hamas, c'est la réaction de Mahmoud Abbas. Bon, grosso modo, la seconde intifada, c'est la seconde période des années 2000. Il y a la seconde intifada, c'est la première partie des années 2000. La seconde partie des années 2000, elle est très marquée par la polarisation de plus en plus forte entre le Hamas et le Fatah et entre le Hamas et Israël, puisque le Hamas s'implante véritablement dans la bande de Gaza dans la seconde moitié des années 2000 pour en prendre le contrôle complet. Et puis il y a une troisième période, on va dire la troisième période, celle des années 2010, qui à mon avis est très marquée par le contexte très particulier et des révolutions arabes, et des soulèvements arabes, et des conséquences de la crise syrienne, y compris des conséquences de la crise syrienne sur le monde national. Donc on a comme ça des périodisations hein, qu'on connaît, mais dans le livre, je n'ai pas choisi une approche, on dirait, trop chronologique. J'ai plutôt pris une approche, on va dire, thématique, avec donc quatre grandes parties, c'est pour ça que je vous dis que je vais grosso modo résumer le livre. Quatre grandes parties, une première partie qui se pose la question du territoire, la question des frontières, parce que cette question des frontières de la Palestine, elle est toujours disputée dans le mouvement national palestinien. Est-ce qu'on parle des frontières de 67, donc ce qui implique forcément une solution à deux États, israéliens et palestiniens, côte à côte, se reconnaissant l'un l'autre, chose, on en est très très loin pour le moment. Mais il y a encore cette idée dans une partie du mouvement national qui reste, hein, de la Palestine mandataire, de la Palestine de 48, c'est-à-dire de la Palestine historique. Cette idée est encore très présente, elle est présente chez le Hamas, mais pas seulement, elle est présente chez d'autres partis. Et en même temps, je montre dans le livre comment cette question 67-48, elle est plus complexe que ce qu'on croit. J'ai dit que le débat palestinien en 93, c'est pas entre les faucons et les colombes, c'est pas entre les partisans de la paix et les partisans de la guerre. Et ben, il en va de même pour les frontières de 67-48. Je vous montrerai comment les choses en fait sont beaucoup plus complexes et en quoi les partisans des frontières de 48 sont parfois ou deviennent partisans des frontières de 67 et comment, à l'inverse, les partisans des frontières de 67 et de deux États, parfois, croient encore aux frontières de 48. Donc ça, c'est la première partie hein, qui se porte donc sur la question du territoire. La deuxième partie, c'est sur la question du pouvoir politique. Donc, question du pouvoir politique, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'autorité nationale palestinienne, hein, de cet embryon d'État qui marche sans tout à fait marcher, de cet embryon d'État qui n'a pas de souveraineté réelle sur son propre territoire, puisqu'on est toujours dans les conditions particulières d'une occupation, et plus particulièrement d'une occupation militaire. Question également de la réforme de l'OLP, et cette question de l'OLP, elle est centrale aujourd'hui dans le mouvement national palestinien, et cette question de l'OLP, elle est souvent oubliée aujourd'hui, on se concentre toujours sur l'autorité nationale palestinienne, mais on oublie que du point de vue du droit international, et on oublie que du point de vue des négociations, c'est l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, et non pas l'ANP qui est responsable des négociations, et c'est l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, qui représente l'ensemble des Palestiniens, puisque l'OLP, le mandat de l'OLP depuis son origine, c'est de représenter les Palestiniens de la Cisjordanie, de la bande de Gaza, du Liban, de Jordanie, d'Europe, d'Amérique latine, alors que le mandat de l'autorité nationale palestinienne, hein, c'est juste un mandat qui est sur la Cisjordanie et la bande de Gaza. Donc cette question de la réforme de l'OLP, je passe du temps dans le livre dessus, je pense qu'elle est centrale. Je dis qu'elle est centrale parce que l'un des grands débats interpalestiniens, depuis 2005 notamment, c'est comment réformer cette organisation de libération de la Palestine. Et il y a cet avis chez beaucoup de Palestiniens aujourd'hui qu'une partie du problème, y compris une partie des problèmes de l'autorité nationale palestinienne, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, qu'une partie des problèmes de l'autorité nationale palestinienne peuvent être résolus aussi par une véritable réforme de l'OLP, de l'Organisation de Libération de la Palestine. Et cette Organisation de Libération de la Palestine, elle est en crise, mais elle est au centre, véritablement, depuis 2005, de tous les débats. La troisième partie porte, cette fois-ci, on va dire, sur les modes d'action et les alliances. Elle porte donc sur les débats qui existent chez les Palestiniens, parce que ce sont des débats et que les choses ne sont pas figées. Ce sont des débats sur la quand je dis les modes d'action, c'est-à-dire les débats sur la question de la violence politique, sur la résistance armée, qui sont des débats en même temps éthiques et moraux. Hein, j'avancerai aussi ça. Il y a eu des débats chez les Palestiniens, des vrais débats sur les attentats suicides. Est-ce qu'il est légitime de faire ça ou pas? Il y a des intellectuels qui sont opposés. Sur la question de la guerre des roquettes à partir de la bande de Gaza, il y a un véritable débat en Palestine sur la question de l'usage des armes, de l'usage de la violence politique. Et puis, il y a toutes ces autres formes aussi qui sont adoptées également par les partis politiques de ce qu'on appelle la résistance populaire, que certains vont appeler la résistance pacifique, même si ce n'est pas tout à fait ça, mais on va dire cette résistance qui veut s'appuyer avant tout sur les paysans, sur les villages de paysans, sur des mobilisations civiles. Voilà, on utilise aussi le terme de résistance civile. Et il y a beaucoup de débats aujourd'hui dans le monde national sur qu'est-ce qu'on doit privilégier, la résistance civile ou la résistance armée. Ces débats existent aussi dans Hamas, hein, puisque Khaled Meshal, le premier dirigeant de Hamas, ces dernières années, s'est plutôt dirigé sur une théorie selon laquelle la résistance civile est plus efficace que la résistance armée. Donc, c'est-à-dire, c'est même des débats qui traversent les orientations politiques en leur sein. Donc ce débat sur les modes d'action, et ce débat sur les modes d'action, il induit un autre débat, qui est dans la troisième partie du livre, qui est un débat sur les alliances. Il y a un débat qui traverse les Palestiniens depuis 1993, c'est avec qui on s'allie dans la région. Certains ont fait le choix pendant des années de s'allier, on va dire, sur l'axe syro-iranien, même si la notion d'axe est relative, je ne sais pas si ça décrit très bien la réalité, mais disons qu'un certain nombre de partis politiques, pendant des années, ils se sont dit par opposition aux accords d'Oslo, on va s'appuyer sur l'axe Iran-Syrie-Hezbollah. C'est quelque chose qui a été un peu en crise à partir de la crise syrienne. Et puis, il y a une autre partie du monde national palestinien, ceux qui, on va dire, plus ou moins accepté les accords d'Oslo, ceux-là disent non, il faut s'appuyer avant tout plutôt sur les pays européens, sur les États-Unis, sur la force du droit international et donc sur l'appui que peuvent nous offrir notamment les Occidentaux, mais aussi les pays du Golfe, par exemple. Donc, il y a aussi une question sur les alliances régionales, qui est toujours une question complexe. Et la quatrième partie du livre, sur laquelle je termine cet ouvrage, c'est la question des idéologies. C'est-à-dire plus une histoire des idées. Parce qu'on a vu que, bah, aujourd'hui, le mouvement national palestinien, c'est plus forcément le mouvement national palestinien des années, je dirais, des années 1970. Hein. Il y a aujourd'hui un mouvement islamique qui est très fort, mais c'est un mouvement islamo-nationaliste, comme je l'explique. Il y a le Fatah, qui est ce que j'appelle plutôt un nationalisme conservateur. C'est le meilleur terme que j'ai trouvé. Il peut être tout à fait contesté, mais j'explique que le Fatah, ce n'est pas un parti laïque, hein, contrairement à ce qu'il est représenté parfois dans certains cercles. C'est un parti dans lequel il y a beaucoup de croyances, c'est un parti qui a une certaine approche également de l'islam. C'est un nationalisme conservateur au sens propre. Et je parle aussi des recompositions idéologiques qu'il y a notamment dans la gauche palestinienne et dans les mouvements nationalistes arabes palestiniens. Donc voilà, ça c'est un peu les quatre parties. Pour vous les résumer très facilement, sur la question du territoire, donc sur cette question de 48... et 67. Cette question de 48 et 67, cette question d'une seule Palestine allant de la mer au Jourdain ou d'une Palestine qui accepte Israël à ses côtés, donc qui implique la solution des deux États, c'est une vieille question dans le mouvement national palestinien. Elle a toujours existé. La première charte de l'OLP, on va dire, c'est, enfin la charte de l'OLP de 1969, bien sûr, se réclame d'une seule Palestine. Hein. En 1974 déjà, donc c'est-à-dire très vite et très rapidement, l'OLP se dirige vers une autre théorie, puisque à partir de 1974, la 11e session du Conseil national palestinien de l'OLP évoque l'idée d'une autorité nationale palestinienne indépendante sur tout ou partie de territoire libéré, c'est-à-dire que peu à peu, à partir de 1974, en fait, la direction de l'OLP dit on va accepter la logique des frontières de 67 et on va s'implanter dans les frontières de 67, ce qui exige de notre part peu à peu une reconnaissance progressive de l'État israélien. À l'époque, cette acceptation progressive des frontières de 67, elle n'est pas reconnue par tous, hein. Même dans le Fatah, toute une partie à l'époque du Fatah refuse l'idée des frontières de 67. Le Fatah, jusqu'à aujourd'hui, dans le Fatah, il y a beaucoup de militants, beaucoup de dirigeants qui refusent encore l'idée des deux États, qui dit si on fait les deux États, ça sera de manière purement tactique, nous ce qu'on veut c'est une seule Palestine. Donc c'est un débat qui n'est pas terminé, et ce débat naturellement renaît avec les accords d'Oslo, et depuis les accords d'Oslo, si vous voulez, vous avez deux tendances, hein. Vous avez effectivement ceux qui se réclament officiellement des frontières de 67. Alors ceux qui se réclament des frontières de 67, c'est qui? Bah, c'est naturellement la majorité du Fatah, je dis bien la majorité parce que certains dans le Fatah ne sont pas favorables à cette idée, mais le Fatah, grosso modo, c'est le parti qui porte les frontières de 67. Deuxième parti qui est sur les frontières de 67 et sur la théorie des deux États, c'est le Front démocratique pour la libération de la Palestine, qui est une organisation de gauche. On pourrait citer aussi le Parti du peuple palestinien. Le Parti du peuple palestinien, c'est l'ancien parti communiste. Il existe toujours cet ancien parti communiste, notamment en Cisjordanie, à travers son réseau des ONG. Hein, la principale ONG d'agriculteurs palestiniens en Cisjordanie, c'est une ONG qui est très proche du parti communiste, qui aujourd'hui s'appelle donc le Parti du Peuple. Vous avez également la FIDA, hein, qui est une petite formation de gauche, qui était autrefois dirigée par Yasser Abed Rabo, qui a été un des principaux dirigeants de l'OLP ces dernières années. Donc on a des partisans des deux États, et pas des moindres, puisque le Fatah, en acceptant cette idée des deux États, bah, c'est quand même un poids certain dans l'acceptation, hein, officielle de l'idée de deux États palestiniens et israéliens côte à côte. Qui sont les opposants à la théorie des deux États jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire les opposants officiels, ceux qui disent on est contre les frontières de 67 et on est pour récupérer les frontières de 48? Bah, y a le Hamas, naturellement. La théorie officielle de Hamas à la fin du fin, c'est que il faut récupérer les frontières de 48. Il y a le djihad islamique, qui sont aussi donc des islamistes palestiniens, qui sont la deuxième organisation palestinienne. Il y a le Front populaire pour la libération de la Palestine, qui est la première organisation de gauche palestinienne. Il y a des petits partis nationalistes arabes. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, comme vous le voyez, c'est que ce n'est pas une question forcément idéologique. Encore une fois, ce n'est pas les laïcs et les religieux. La question ne se pose pas du tout comme ça. Dans ceux qui veulent récupérer les frontières de 48 et dans ceux qui se réclament des frontières de 48, bah, y a des islamistes et il y a des ultra-séculiers, puisqu'il y a la première formation de gauche palestinienne. Le débat palestinien, le débat inter-palestinien n'est pas marqué par le conflit entre religieux et séculiers. Ça, c'est quelque chose que je m'acharne à dire depuis des années, c'est pas ça qui fait les lignes de fracture dans le mouvement national palestinien, et je pourrais préciser ça un peu après. Mais quand je dis que voilà, il y a les partisans des frontières de 48 et les partisans des frontières de 67, c'est relatif, parce que depuis 1993, les uns et les autres ont fait des évolutions, et parfois des évolutions surprenantes. Prenons le cas de Hamas, par exemple. Hamas est un parti qui officiellement, comme le djihad islamique d'ailleurs, officiellement se réclame des frontières de 48, mais depuis des années, sa perspective tactique et qu'il propose aux Israéliens, c'est-à-dire le Hamas a proposé des documents sur la question aux Israéliens dans des négociations secrètes, ça aussi j'en parle, le Hamas, dans des documents proposés aux Israéliens par des intermédiaires allemands, par des intermédiaires britanniques, etc., dit aux Israéliens, on n'est pas prêt à vous reconnaître, mais de toute façon, on ne vous demande pas à vous non plus de nous reconnaître, donc si le problème de la reconnaissance, ne nous reconnaissons pas les uns les autres, ce n'est pas grave, mais nous sommes prêts à une trêve de long terme, c'est-à-dire à une trêve de long terme, c'est-à-dire 10, 20, 30, 40, 50, fixons nous-mêmes la trêve, et cette trêve sera sur les frontières de 67. Donc, de fait, aujourd'hui, le Hamas est un parti qui, paradoxalement, a intégré la logique des frontières de 67. 67. C'est-à-dire ces frontières de 67 dont il dit qu'elles n'existent pas et qu'elles sont relatives, par la force des choses, parce qu'il y a une réalité en Cisjordanie et parce qu'il y a une réalité dans la bande de Gaza qui est différente forcément de la réalité d'Israël, et bien forcément le Hamas s'est acclimaté à cette idée des frontières de 67, les a plus ou moins acceptées, sauf que vu qu'il ne veut pas reconnaître Israël, il va proposer une solution alternative, une solution intermédiaire, il va dire « faisons une trêve ». Faisons une trêve donc, pour quelques années, faisons une trêve qui soit un pacte également de non-agression, c'est-à-dire nous n'avons pas d'agression militaire sur vous et vous n'avez pas d'agression militaire sur nous, mais effectivement il y a eu une certaine évolution du Hamas, et quand je dis que c'est une évolution notable, c'est que ça a poussé le Hamas lui-même à entamer des négociations indirectes, parce qu'il y a des négociations indirectes entre le Hamas et Israël, ça serait illusoire de croire le contraire, ils ne se rencontrent pas directement parce que les deux le refusent, mais ils passent par des intermédiaires et il y a des documents également qui ont circulé. Même chose pour le Front populaire pour la libération de la Palestine, qui est une organisation qui se réclame de 48 officiellement, mais qui aujourd'hui, finalement, intègre complètement la logique des frontières de 67. Le Front populaire pour la libération de la Palestine, aujourd'hui, dit de toute façon, on ne va pas récupérer 48 comme ça, c'est quelque chose d'infiniment trop difficile, donc acceptons pour une certaine période, la logique des frontières de 67 et donc implicitement la logique des deux États. Pour vous dire donc que les choses sont plus complexes que d'un côté les gens de 48 et d'un côté les gens de 67. Mais de l'autre côté, les partisans de 67 ont fait une évolution, je dirais, inverse. Qu'est-ce qu'on a vu ces dernières années dans des propos de gens de l'autorité nationale palestinienne et dans des propos de gens de la direction de Fatah ? Il y a un très récent interview d'un dirigeant de Fatah dans la revue d'études palestiniennes en arabe, où il dit « Moi, j'ai porté toute ma vie le projet des deux États. Toute ma vie, j'ai fait ça, j'ai été négociateur avec les Israéliens, il s'appelle Mohamed Achtaoui, il est à la direction de Fatah, il a dit « J'ai fait partie des négociateurs palestiniens, j'ai été partisan de la théorie des deux États palestiniens et israéliens côte à côte, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ?» Il dit « Les deux États sont morts, il n'y a pas la possibilité matérielle de faire les deux États parce que la colonisation extensive de la Cisjordanie, parce que l'imbrication, d'une certaine manière, des deux populations a rendu la perspective de deux États impossible. » C'est-à-dire, lui dit « Ce sont les Israéliens qui, en rendant la perspective des deux États impossible, remettent à l'ordre du jour la perspective d'un seul État. » Et donc là, on a un chemin contraire, on a des partisans de 67 qui tournent visiblement sur un retour aux frontières de 48. Donc comme vous le voyez, pour dire que ces frontières sont poreuses, et surtout qu'on n'est pas dans des débats, encore une fois, binaires. Je crois que c'est un peu ce que j'ai essayé vraiment d'avancer dans le livre, c'est que nous ne sommes pas dans des débats binaires. Comme j'ai dit, il n'y a pas les partisans de la paix contre les partisans de la violence, il n'y a pas les partisans des deux États contre les partisans d'un État. Les choses sont un peu plus complexes. Ces choses sont complexes, et ces choses sont complexes également sur la question donc, du pouvoir politique. Parce que finalement, le pouvoir politique, c'est d'abord poser donc, la question de l'autorité nationale palestinienne. Donc une précision, comme vous le savez, je pense, l'autorité nationale palestinienne n'est pas un État, ça ne remplace pas un État. L'autorité nationale palestinienne a, on va dire, des attributs de souveraineté, c'est ce qui en fait un corps un peu hybride. Elle a des vrais attributs de souveraineté, par ailleurs, elle a une police. Elle n'a pas d'armée, ça vous imaginez bien, mais elle a une police, donc c'est-à-dire elle a du capital de coercition, hein, comme dit Bourdieu. Elle a des ministères, elle a l'apparence d'un État, elle a même, on va dire, l'apparat d'un État. Elle a une présidence, elle a un premier ministère, elle a un conseil des ministres, etc., cette autorité nationale palestinienne. Mais paradoxalement, ce n'est pas un État, c'est un des rares cas au monde. Hein, d'ailleurs, l'autorité nationale palestinienne, il y a beaucoup d'études sur ça, parce que c'est un objet très particulier, cette autorité nationale palestinienne. C'est un État qui n'est pas un État, c'est un État sans souveraineté, mais qui fonctionne comme un État, donc c'est quelque chose d'assez étrange. Depuis 1993, là aussi, on a les opposants à l'autorité nationale palestinienne, fruit des accords d'Oslo, hein, l'autorité nationale palestinienne, c'est un fruit direct des accords d'Oslo. On a d'un côté, donc, je dirais, les opposants aux accords d'Oslo et à l'autorité nationale palestinienne qui disent « cette autorité nationale palestinienne, elle est illégitime, c'est un fruit de l'occupation ». C'est un fruit de l'occupation de leur point de vue, puisque cette autorité nationale palestinienne également, l'un de ses piliers, c'est la coopération sécuritaire avec Israël. Hein, et vous savez que la coopération sécuritaire avec Israël, entre la police de l'autorité nationale palestinienne et les Israéliens, c'est véritablement le pilier en fait, central des accords d'Oslo. Et Mahmoud Abbas, très récemment, a réitéré hein, qu'il n'y aurait pas de rupture de la coopération sécuritaire avec Israël. Cette coopération sécuritaire est continue, c'est-à-dire quand des Israéliens arrêtent des militants, par exemple palestiniens en Cisjordanie, souvent ça se fait en coordination ou avec certaines informations qui ont été données par l'autorité nationale palestinienne, donc il y a une véritable coordination sécuritaire, hein, sérieuse. Et donc, les partis opposés à l'autorité nationale palestinienne depuis 1993 disent, voilà, pour nous, c'est l'autorité nationale palestinienne, c'est un instrument de l'occupation israélienne. Ce n'est pas quelque chose qui est en train de créer notre souveraineté. Ce n'est pas un État. Et donc, nous refusons sa logique. Et donc, qui est contre l'autorité nationale palestinienne ? Bah, toujours les mêmes, pareil. Le Hamas, naturellement, historiquement, est contre l'autorité nationale palestinienne. Le djihad islamique est contre l'autorité nationale palestinienne. Le Front populaire pour la libération de la Palestine est contre l'autorité nationale palestinienne. Et à l'inverse, le Fatah, bah le Fatah, c'est le parti pilier de l'autorité nationale palestinienne depuis 1993, au point qu'on sait que le Fatah, c'est parfois confondu. Hein, des fois, on a du mal à voir la différence entre l'autorité nationale palestinienne et l'appareil du Fatah, y compris dans les appareils de sécurité. Donc, d'un côté, les opposants à l'autorité nationale palestinienne, de l'autre côté, les partisans. Mais là aussi, comme pour la question des frontières, les choses se sont complexifiées. Puisque le Hamas, depuis 2006... Que fait le Hamas depuis 2006 ? Il a d'un côté un discours en disant « Nous, le Hamas, nous refusons les frontières de l'autorité nationale palestinienne ». Mais de l'autre côté, il a une pratique où il reconnaît l'autorité nationale palestinienne. Il reconnaît l'autorité nationale palestinienne. Pourquoi ? Parce qu'il participe aux élections législatives de 2006. Il participe à des élections législatives qui sont un fruit direct de l'autorité nationale palestinienne et qui sont un fruit direct des accords d'Oslo. Et il gagne ces élections législatives. Et depuis qu'il a gagné ces élections législatives, que fait le Hamas ? Il dirige une autorité nationale palestinienne à Gaza. Il se réclame d'un gouvernement d'union nationale avec le Fatah. Lorsque le Hamas dit qu'il faut faire l'union nationale avec le Fatah dans un gouvernement d'union nationale, c'est un gouvernement d'union nationale de quoi ? C'est un gouvernement d'union nationale de l'autorité nationale palestinienne. Donc, de fait, dans la pratique, ce mouvement qui est contre l'autorité nationale palestinienne dans l'idée, dans les faits, il participe à la logique de l'autorité nationale palestinienne. Et donc, quand je vous ai dit que sur la question du territoire, entre 67 et 48, les choses se sont considérablement complexifiées, on pourrait dire que sur cette question de l'autorité nationale palestinienne, les choses se sont aussi complexifiées, et elles se sont d'autant plus complexifiées que l'autorité nationale palestinienne, même si elle a très peu de souveraineté, elle existe, et elle existe à travers un aspect très particulier, qui est le fait qu'elle a beaucoup de fonctionnaires. Elle a environ 180 000 fonctionnaires dans les territoires occupés, et que ces fonctionnaires, si on dissout l'autorité nationale palestinienne, par exemple, bah, quid de leur travail, quid du devenir de leur famille. Pour vous dire que c'est une question qui pèse, un des principaux partis opposés à l'autorité nationale palestinienne, c'est le djihad islamique palestinien, par exemple. Et le djihad islamique palestinien, un de leurs dirigeants, Ramdan Shallah, a été interviewé il y a un an, et on lui pose la question, est-ce que tu es pour la dissolution de l'autorité nationale palestinienne ? Et il dit, oui, je suis... Pour moi, l'autorité nationale palestinienne est un instrument de l'occupation, etc., etc. Il dit, mais dans les faits, nous savons, nous, le djihad islamique, qu'on ne peut pas dissoudre l'autorité nationale palestinienne comme ça. Et il dit, qu'est-ce que nous allons faire des 180 000 fonctionnaires palestiniens ? On va les mettre au chômage, nous, le djihad islamique, nous, le Hamas, on va mettre ces gens au chômage. Non, on ne peut pas. Donc, il y a une réalité, malgré tout, de l'autorité nationale palestinienne. Cette autorité nationale palestinienne, elle est critiquée par les Palestiniens. Elle est souvent, je dirais, dénoncée pour ses travers autoritaires, pour ses travers de corruption. Mais malgré tout, elle s'est aussi imposée dans le paysage social, parce qu'elle a les apparats d'un État, parce qu'elle a des ministères, parce qu'elle a des fonctionnaires, parce qu'elle a une réalité sur le terrain. Donc, division autour de l'autorité nationale palestinienne. Et l'un des seuls moyens, depuis 2005, auxquels pensent les Palestiniens pour, je dirais, se réconcilier ou trouver une solution à leurs problèmes, ce n'est pas l'ANP, c'est l'OLP. C'est l'Organisation de libération de la Palestine. Et depuis 2005, les débats autour de la réforme de l'Organisation de libération de la Palestine sont des débats absolument centraux. En mars 2005, se réunissent 13 factions palestiniennes au Caire, avec la bénédiction, on va dire, le soutien des services égyptiens, et à l'époque également de Moubarak. 13 partis palestiniens réunis au Caire en mars 2005, dont le Hamas, dont le Fatah, dont le FPLP, dont le FDLP, tout le monde est là, les islamistes, les nationalistes arabes, la gauche, les islamistes radicaux, paradicaux, tout ce que vous voulez, tout le monde est là au Caire et signe, on va dire, un agreement, un accord, en disant qu'on s'engage à réformer l'OLP, à tenir des nouvelles élections de l'OLP, à intégrer le Hamas et le djihad islamique dans l'OLP, à avoir un nouveau président de l'OLP, etc. C'est l'idée d'une troisième OLP, de dire après la grande OLP de Yasser Arafat, aujourd'hui l'OLP est sclérosée, mais ça peut être une réponse à nos propres problèmes en tant que Palestiniens. Pourquoi ? Parce que l'OLP, au contraire de l'autorité nationale palestinienne, l'OLP, elle représente, et je le répète, elle représente tous les Palestiniens, elle représente les Palestiniens de Cisjordanie, de Gaza, du Liban, de Jordanie, d'Europe, d'Amérique latine, de la diaspora, les réfugiés, les pas-réfugiés, etc. L'OLP a une légitimité. Et l'OLP doit être notre boussole historique. Donc depuis mars 2005, on a eu cet accord qui a été signé par les 13 factions palestiniennes. Et naturellement, cet accord n'a jamais été correctement appliqué. Il revient tous les 6 mois sur le devant de la table. Tous les 6 mois, le Hamas et le Fatah disent « Pour notre réconciliation, la condition de notre réconciliation, c'est de réformer l'OLP et de tenir de nouvelles élections au sein de l'OLP ensemble. » Donc quand je dis que tous les éléments pour la réforme de l'OLP et tous les éléments pour la réconciliation nationale palestinienne sont présents sur la feuille, c'est vrai, on a les documents écrits, on pourrait dire s'il y a un accord de réconciliation et un accord de réforme de l'OLP, l'accord existe déjà, en tout cas sur le papier, mais cet accord n'a jamais été appliqué, hein, cette réforme de l'OLP n'a jamais été réalisée, elle n'a jamais été réalisée parce que le Fatah et le Hamas, notamment depuis juin 2007, sont entrés dans un combat absolument fratricide, hein, à une époque, que ce combat n'a toujours pas été résolu entre les deux formations. Et l'une des raisons aussi pour laquelle l'OLP a beaucoup de mal à se réformer aujourd'hui, c'est tout simplement qu'il y a beaucoup de problèmes au sein du Fatah. On parle souvent des problèmes entre le Hamas et le Fatah, mais le Fatah est un parti extrêmement divisé. Et il est très difficile de faire avancer quoi que ce soit dans les territoires palestiniens ou de faire avancer quoi que ce soit dans les camps de réfugiés palestiniens au Liban, en raison de la crise profonde de Fatah. Cette crise de Fatah, c'est la crise entre Mahmoud Abbas, le président, et Mohamed Dahlan, qui est un ancien responsable du Fatah et de l'autorité nationale palestinienne, qui est aujourd'hui proche des Émirats arabes unis. Il y a dans les camps de réfugiés palestiniens par exemple, du Liban, par exemple, des fois des combats inter-Fatah. Je dis ça pas pour rentrer dans les détails, mais pour vous dire qu'il est très difficile de penser à une réforme de l'OLP, il est très difficile de penser à une réconciliation nationale palestinienne, lorsque le premier parti palestinien, lorsque le parti qui tient les rênes de la majorité des ambassades, des ministères, etc., est un parti extrêmement divisé, et cette crise de Fatah, elle doit être, je dirais, pensée pour l'avenir. Troisième partie, donc, sur laquelle j'irai un peu plus vite, donc la question des modes d'action. Il y a un débat, bien sûr, palestinien, depuis des années, sur la légitimité de la violence politique. Ce débat n'est pas exceptionnel. Ce débat a existé dans tous les mouvements de libération nationaux. Ce débat a existé dans l'African National Congress de Mandela à une époque. Les Palestiniens ne sont ni exceptionnels, ni ils n'ont aucune différence avec d'autres mouvements de libération nationaux sur la question historiquement. L'usage de la violence politique, il est régulier. Comme je l'ai dit, il y a eu 4 grandes phases. On va dire une première phase qui va être la période des années 90, où cette violence politique, ça va être essentiellement celle des attentats suicides, notamment commis en Israël par 2 organisations à l'époque, donc le Hamas et le djihad islamique. Va succéder à cette première période de la violence politique une seconde période de la violence politique qui est celle de la seconde intifada, dans laquelle on va voir cette fois se multiplier les attentats suicides, les attaques armées contre les colons. La seconde intifada a une caractéristique bien particulière, c'est que la violence politique s'étend à tout le monde, et là, le principal parti à l'époque qui utilise la violence politique, ce n'est pas le Hamas, c'est le Fatah. Et c'est les brigades des martyrs d'Al-Aqsa du Fatah qui font partie des premiers groupes, hein, qui lancent cette seconde intifada armée en septembre 2000. Donc là aussi, comme quoi les schémas parfois sont un peu, peuvent être assez relativisés. Troisième période de la violence politique, c'est ce que j'appelle la guerre des roquettes, qui établit une nouvelle donne stratégique dans l'espace israélo-palestinien, mais aussi à l'échelle de la région. Guerre des roquettes, puisque finalement, depuis, on va dire, 2005-2006, le Hamas a une théorie, qui est une théorie qui n'est pas loin de celle de ce que j'appelle un modèle Hezbollah, c'est de dire on construit un rapport de force progressif avec Israël par la possibilité, par la menace envers Israël de pouvoir lui envoyer des roquettes de manière régulière, mais aussi de pouvoir, à partir d'une zone autonome dans laquelle nous sommes présents en tant que mouvement Hamas, de pouvoir résister militairement à l'armée israélienne. Et toute l'obsession de Hamas, depuis plusieurs années, c'est de dire, grosso modo, qu'ils peuvent non pas équilibrer le rapport de force militaire avec Israël, c'est impossible d'équilibrer le rapport de force militaire avec Israël, mais disons de pouvoir faire réfléchir les Israéliens à 2 fois en cas d'attaque. C'est un peu ça la théorie aujourd'hui de Hamas et des autres factions palestiniennes dans la bande de Gaza. Et aujourd'hui, on est un peu toujours dans ce modèle de la guerre des roquettes. Et il y a un quatrième moment de la violence politique, qui est le moment de ce qu'on appelle la troisième intifada, même si ce n'est pas vraiment une troisième intifada, c'est plutôt, on dit en arabe, un hebbé, un soulèvement, ce n'est pas encore une intifada, qui existe depuis octobre 2015. Elle a une grande spécificité, c'est que c'est, je ne vais pas m'étendre dessus parce que je n'ai pas beaucoup de temps, c'est que ces jeunes que vous voyez parfois à la télé, dont vous entendez parler, qui se précipitent avec un couteau sur les Israéliens, ce sont des jeunes qui ne sont, dans leur très grande majorité, qui ne sont pas membres des partis politiques. Et c'est-à-dire, c'est là où on voit la catastrophe absolue et l'échec l'échec total des accords d'Oslo dans tous les sens. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a une jeune génération palestinienne qui ne croit même plus dans certains partis politiques et qui agit sur un mode tout à fait individualiste. Et les partis politiques palestiniens, que ce soit le Fatah, le Hamas, le djihad islamique, etc., disent eux-mêmes, aujourd'hui, on a une jeune génération que nous-mêmes, nous ne contrôlons pas. C'est une jeune génération, effectivement, avec des jeunes qui font des actes d'une manière individuelle. C'est un peu le quatrième moment de la violence politique dont j'essaye un peu de parler dans le livre. À côté de ces modes de résistance armée et tout, qui s'inscrivent historiquement dans la logique palestinienne hein, depuis les années 70, où là, effectivement, l'usage de la violence politique a été, on va dire, célébré à l'instar, comme je le répète, d'autres mouvements de libération nationaux dans le monde. À côté de ça, on a forcément des modes de résistance plus civils. Là, pareil, les Palestiniens se disputent pour est-ce qu'on parle de résistance populaire, est-ce qu'on parle de résistance pacifique, est-ce qu'on parle de résistance civile. C'est un peu compliqué. Elle s'est beaucoup développée dans la seconde moitié des années 2000. Elle s'est développée notamment avec les paysans palestiniens qui résistent à la construction du mur de séparation israélien, etc. Elle a été considérablement soutenue par des partis politiques. Certains partis politiques, par exemple, comme le Parti du peuple palestinien, l'ancien parti communistes sont explicitement sur l'idée qu'il faut utiliser une résistance qui soit uniquement populaire et civile. Le Parti communiste palestinien, historiquement, n'a jamais utilisé la violence politique, il a toujours été plutôt opposé. Et il y a d'autres partis, comme je dis, ou d'autres dirigeants, de manière assez surprenante, comme là aussi les choses ne sont pas noires ou blanches. Khaled Meshal, le principal dirigeant du Hamas en exil aujourd'hui, depuis quelques années, semble s'orienter vers le principe d'une résistance civile, avec un interview assez étrange où il a dit « la résistance civile a la force d'un tsunami » et où il est visiblement, lui, Khaled Meshal, mais pas forcément d'autres dirigeants de Hamas, mais lui, en tout cas, se dirige sur une idée de dire « la résistance civile, dans la conjoncture politique actuelle, est plus payante que l'usage de la violence politique ». Donc là aussi, on a des débats sur ces questions de résistance civile, de violence politique, etc., qui sont des débats qui traversent les organisations politiques en interne. Il n'y a pas d'un côté les partisans de la violence armée qui disent qu'il faut que la violence armée, il n'y a pas de l'autre côté les partisans de la résistance pacifique qui disent non, il faut que la résistance pacifique. Il y a des débats qui traversent chaque organisation palestinienne. C'est des débats extrêmement complexes et comme je dis, c'est des débats qui sont également des débats éthiques, des débats moraux. Lorsqu'il y avait la grande vague des attentats suicides au début des années 2000, il y avait eu une pétition d'intellectuels palestiniens, de 52 intellectuels palestiniens, qui s'étaient opposés, par exemple, au principe des attentats suicides. Ça avait provoqué un grand débat dans la société palestinienne, etc. Donc là aussi, il ne faut pas oublier qu'on est traversé quand même de débats qui sont des débats complexes et qui sont des débats également qui recoupent des questions, je dirais, très sensibles, puisqu'elle touche à des questions même morales ou éthiques. Cette question des résistances, elle implique naturellement une autre question qui est la question des alliances, j'en ai un peu parlé. Les alliances, c'est-à-dire quoi ? Grosso modo, depuis 1993, il y a deux modèles. Il y a le Hamas, le FPLP, etc., le djihad islamique, qui disent depuis 1993 qu'il faut s'appuyer dans la région sur la force de l'axe syro-iranien et sur le modèle du Hezbollah au sud Liban. Le Hezbollah est un parti qui a inspiré beaucoup les Palestiniens, puisqu'il y a eu la libération du sud Liban en mai 2000, puisqu'il y a eu le modèle de la guerre de 2006. Donc ça, c'est la première régime d'alliance. Et à ça s'oppose naturellement un autre régime d'alliance. On va dire que c'est le régime d'alliance promu par la majorité du Fatah et par Mahmoud Abbas, qui est un régime d'alliance qui dit « appuyons-nous majoritairement sur, non pas une alliance, mais au moins de bonnes relations avec les États occidentaux, avec la France, avec les États du Golfe, avec les grands États de la Ligue arabe, pour peser avec la force du droit international dans les négociations avec Israël ». Ce clivage entre partisans de l'axe syro-iranien et les autres, il existait jusqu'en 2011, juste pour dire que depuis 2011-2012, les choses se sont considérablement, encore une fois, complexifiées et que rien n'est blanc ou noir, puisque le Hamas, comme vous le savez, en février 2012, rompt avec Damas, rompt avec le régime de Bachar el-Assad. Donc il quitte ce qu'on appelait l'axe de la résistance, cet axe syro-irano-Hezbollah s'appelle lui-même, s'auto-appelle l'axe de la résistance. Donc le Hamas à l'époque rompt avec le régime de Damas, donc rompt avec 20 ans d'alliance, de soutien militaire, de soutien financier du régime de la famille Assad. Donc depuis les débuts de cette crise syrienne, les choses se sont effectivement complexifiées. Il ne me reste plus beaucoup de temps, donc je vais passer un peu à la quatrième partie, qui me permettra en même temps de conclure, qui est sur la question des idéologies, ou on pourrait dire d'une histoire des idées. On n'est plus face au même... face au même, je dirais, panorama que dans les années 1960-1970. À l'époque, dans les années 60-70-80, pour ceux qui l'ont vécu, le mouvement national palestinien incarnait d'abord à l'échelle de la révolution arabe, dans les esprits, dans les mentalités, dans l'imaginaire, ça incarnait, le mouvement national palestinien, l'avant-garde de ce qu'on appelait la révolution arabe. C'est pour ça que vous aviez, au Liban notamment, l'OLP était présent au Liban, vous aviez des combattants tunisiens, marocains, algériens, venant du Golfe, venant de Somalie, venant d'Éthiopie, qui s'engageaient dans le Fatah, qui s'engageaient dans le Front populaire pour la libération de la Palestine, puisque, effectivement, le mouvement national palestinien, dans l'imaginaire, incarnait cette avant-garde de la révolution arabe et de l'opposition tant à Israël qu'au régime autoritaire arabe. On n'est bien sûr plus dans cette période. Le mur est tombé, les idéologies tiers-mondistes ont vécu une crise réelle. Donc on est passé à autre chose. Et aujourd'hui, si on doit qualifier un peu, si on doit un peu expliciter c'est quoi les idéologies présentes dans ce mouvement national palestinien, ben, comme je dis, là aussi, on est dans des phénomènes un peu de métissage et où les choses sont ambiguës. L'islam politique domine, il domine, on va dire, il domine, il n'est pas hégémonique, mais il domine au niveau des idées, au niveau de... Mais c'est un islamisme qui est un islamo-nationalisme, sur ça je reprends le terme classique de Olivier Roy. Le Hamas et le djihad islamique sont des partis typiquement nationalistes, sont des partis islamistes, mais sont des partis nationalistes. Ils n'inscrivent pas du tout leur idéologie dans un combat transnational, ça ne les intéresse pas. Le djihad islamique et le Hamas ne font pas d'opérations militaires à l'extérieur de la Palestine, jamais. C'est quelque chose qui ne les intéresse pas, c'est quelque chose qu'ils ne veulent pas. Et ce qui est très intéressant, c'est quand, pour voir cette différence entre islamo-nationalisme et islamisme, par exemple, de type plus djihadiste, hein, de type État islamique, hein, et ben c'est que l'État islamique, depuis 2 ans, dénonce le Hamas. Et l'État islamique, il y a 2 ans, dans la bande de Gaza, a fait une série d'attentats contre des dirigeants de Hamas et des dirigeants du djihad islamique. Et l'État islamique a fait un communiqué, le communiqué est intéressant, parce que grosso modo, ils considèrent le Hamas comme des traîtres. Ils considèrent le Hamas comme des traîtres parce qu'ils disent, vous, le logiciel de Hamas, c'est d'avoir accepté la logique nationale. C'est-à-dire, vous n'êtes pas du tout dans le même logiciel que nous. Soit on construit l'islam, soit on construit la nation, mais on ne peut pas construire les deux. Nous, on construit une Oumma, vous, vous construisez une nation palestinienne. Donc, vous n'êtes pas dans le même logiciel que nous. Donc, vous êtes des ennemis. Et effectivement, les tensions entre le Hamas et l'État islamique existent, et les tensions entre le Hamas et les groupes salafistes radicaux existent dans la bande de Gaza depuis bien antérieurement, puisqu'en 2009, c'est un épisode qu'on a oublié, mais en 2009, il y avait un groupe djihadiste assez inspiré d'Al-Qaïda qui avait pris un quartier à Gaza, et qu'à l'époque, le Hamas était rentré dans la mosquée, avait tiré dans la mosquée, ce qui peut paraître ahurissant, mais le Hamas avait tiré dans la mosquée et avait éliminé, par une violence par ailleurs très grande, ce mouvement salafiste djihadiste à l'époque, donc ça remonte aux années 2009. Donc on a un islamisme nationaliste, un islamo-nationalisme d'un côté, et puis de l'autre côté, on a le Fatah. Alors le Fatah, ce n'est pas un parti avec une idéologie fixe. Dans le Fatah, il y a toujours eu toutes les tendances. Mais le Fatah, aujourd'hui, est simplement, pour aller vite, ce que j'appelle un parti nationaliste conservateur. C'est-à-dire, d'abord, c'est le parti nationaliste historiquement. Ça a été le parti qui a fondé ou qui a refondé le nationalisme palestinien à partir de 1959 et du début des années 1960. Mais conservateur, pourquoi ? Tout simplement parce que le Fatah s'est aussi acclimaté à l'ambiance de l'époque. Le Fatah s'est aussi acclimaté à la montée des partis islamistes, à la montée de l'idéologie islamique, et qu'il a donc rendu son discours plus religieux qu'auparavant, y compris dans ses branches armées. Les branches armées de Fatah, souvent, ont des noms assez, avec une connotation assez religieuse, les brigades des martyrs d'Al-Aqsa, Al-Aqsa, donc la mosquée de Jérusalem, etc. Donc le Fatah est un parti nationaliste conservateur, ça n'en fait pas un parti islamique, c'est pas un parti islamiste, mais c'est un parti qui est pour, grosso modo, je dirais, une certaine dose de conciliation avec la thématique religieuse, ou tout du moins pour ne pas en faire un problème. Dans ce paysage idéologique, dans le livre, je conclus enfin sur 2 courants qu'on a tendance à oublier, pourtant ils existent. C'est effectivement la gauche palestinienne, elle est très divisée, comme je le dis. Elle existe malgré tout, elle existe dans les camps de réfugiés palestiniens du Liban, elle existe à Gaza, elle a encore des branches armées qui ont été très actives en 2014 lors de la guerre avec Israël, c'est là où on a redécouvert qu'ils existaient pour la peine. Elle est divisée néanmoins, elle est divisée, comme j'ai dit, entre plusieurs formations, le Front populaire, le Front démocratique, l'ancien parti communiste, etc. Elle est divisée comme le sont tous les Palestiniens autour de questions politiques. Il y a des gens de gauche qui sont avec les frontières de 48, comme j'ai dit, il y a des gens de gauche qui sont avec les frontières de 67, etc. Donc, et elle n'a pas encore trouvé les voies de son unité. Les seules choses qui l'unissent, comme je le dis dans le livre, les seules choses qui unissent encore cette gauche palestinienne, c'est certains principes autour, les principes classiques, la question de la défense du droit des femmes, la question de la défense des plus pauvres, des droits des travailleurs, d'avoir une intervention dans le mouvement syndical palestinien. Voilà, ça, c'est des principes dans lesquels les gens de gauche en Palestine réussissent un peu à s'unir, des principes de base, l'héritage historique des gauches arabes et des gauches en général réussissent un peu à unifier cette gauche. Et il y a enfin ce que j'appelle un nationalisme arabe souterrain. Souterrain parce qu'il n'y a plus de grands partis nationalistes arabes. Il n'y a pas un parti basse, par exemple, en Palestine, qui se réclame du basse syrien ou du basse irakien. Il y en a encore, mais ils sont tout petits. Mais il y a un nationalisme arabe souterrain, dans le sens où le nationalisme arabe, historiquement, a inspiré beaucoup de partis. Ce nationalisme arabe, il existe avec des personnalités. Il existe avec des partis qui ne se réclament pas directement du nationalisme arabe, mais qui sont très inspirés, comme le Front Populaire et comme d'autres. Et ce nationalisme arabe souterrain, je dis également, il a été revivifié par la crise syrienne, puisque finalement, et on n'a pas vu ça qu'en Palestine, moi j'ai vu ça dans d'autres pays, en Tunisie, etc., mais avec la crise syrienne, effectivement, face au projet, on va dire, pan-islamique, il y a certains partisans du régime de Bachar al-Assad qui ont essayé finalement de revivifier une forme de nationalisme arabe en disant nous aussi nous avons un projet transnational qui est ce nationalisme arabe, et on voit qu'en Palestine ça marche, et on voit qu'en Palestine la rue palestinienne est très divisée autour de cette crise syrienne, puisqu'il y a des manifestations où les Palestiniens défilent avec le drapeau du soulèvement syrien, et il y a des manifestations où il y a des Palestiniens qui défilent avec le drapeau du régime syrien. Donc cette crise syrienne, elle a aussi affecté le mouvement national, elle a affecté le mouvement national également en Syrie, puisque en Syrie il y a même des Palestiniens qui se sont combattus les uns les autres dans les camps de réfugiés. Mais gardez aussi cette idée en conclusion que la crise syrienne, ça constitue aussi un des éléments qui aujourd'hui pèse sur le devenir du mouvement national palestinien, ce qui me permet de conclure aussi, le mouvement national palestinien, il est affaibli, il est divisé, mais on sait que pour le moment, les voies, je dirais, de son renouvellement ne sont pas encore prêtes. Tout simplement pourquoi ? Les Palestiniens ont peu de ressources et ils ont toujours été extrêmement, extrêmement dépendants de logiques extérieures. Et pour le moment, les Palestiniens sont plutôt dans une attitude attentiste. Je citais tout à l'heure la revue d'études palestiniennes où il y avait, une série d'entretiens avec plusieurs dirigeants palestiniens qui a été reproduite dans la revue d'études palestiniennes. Et ils disaient, depuis 2011, on a parfaitement conscience qu'une partie du monde arabe ne parle plus de nous. Ça ne veut pas dire qu'on ne parlera pas d'eux plus tard, mais ils disent, le monde arabe ne parle plus de nous parce qu'il y a des problèmes immenses en Syrie, en Tunisie, au Yémen. Les Yéménites ne vont pas parler tous les jours de la question palestinienne alors qu'ils sont dans un processus de guerre civile. Ils ont surtout autre chose à faire. Et donc, ces dirigeants palestiniens, donc il y a dedans un dirigeant du Parti communiste, un dirigeant de Fatah, enfin plusieurs dirigeants, tous ils ont ce constat de dire depuis 2011, grosso modo, on est un peu passé dans les coulisses de l'histoire pour une petite période, et on le sait, et on en est conscient. Mais ils disent surtout, pour nous, c'est très difficile de prendre parti dans ces révolutions arabes, de prendre parti dans ces soulèvements arabes, de prendre parti dans ces conflits civils arabes, parce qu'on en est extrêmement dépendant, et que pour le moment, nous, en tant que Palestiniens, on observe surtout la situation, et on observe surtout quel va être le nouveau rapport de force régional qui va apparaître dans les prochaines années. Et ça, c'est aussi une leçon historique à retenir. Il est très difficile de dissocier l'histoire du mouvement national palestinien des rapports de force régionaux et des rapports de force mondiaux. Or, pour le moment, ils ne sont pas clairs. Et c'est un peu ce qu'attendent aussi les Palestiniens. Comment va s'éclaircir tout ça? Et tous attendent ça. Le Hamas, que fait le Hamas depuis quelques années? Il a rompu avec Damas, mais il garde des liens avec l'Iran, il garde des liens avec la Turquie et il garde des liens avec le Qatar. Parce que le Hamas, dans son esprit, se dit « je ne sais pas encore quel rapport de force va émerger de la situation actuelle. Donc je ne vais pas prendre parti complètement pour l'Iran ou complètement pour le Qatar, parce que pour le moment, je ne sais pas qui sera la principale force dans les prochaines années. Je ne sais pas qui sera susceptible de m'aider. » Donc pour le moment, il est très difficile aussi de réformer ce mouvement national palestinien, de réunifier les rangs du mouvement national, pour une seule raison, c'est que le paysage régional, est extrêmement divisé et extrêmement fragmenté. Pour terminer, ceci dit, sur une note positive, il y a quelque chose, à mon avis, qu'il faut réfléchir, et sur ça, c'est la conclusion de mon livre, et peut-être que j'ai tort, et peut-être que je me trompe, mais je dis, la question palestinienne, elle crée encore dans le monde arabe du commun. C'est-à-dire, vous allez voir des gens qui sont avec le régime de Bachar al-Assad ou des gens qui sont contre le régime de Bachar al-Assad. Vous allez voir des islamistes, vous allez voir des non-islamistes en Tunisie, etc. les gens sont plus ou moins d'accord sur la question palestinienne. C'est-à-dire, elle crée encore du commun. C'est un des rares sujets sur lesquels les gens ne se disputent pas dans le monde arabe. C'est même, je pourrais dire, le dernier. Alors, ça peut sembler complètement anecdotique dans la période actuelle, mais je conclue malgré tout en disant que dans les années 1990, lorsqu'il y a eu la guerre civile en Yougoslavie, on a parlé de la libanisation de la Yougoslavie. Et puis après, on a reparlé, dans les années 2000, de la balkanisation du Moyen-Orient. Après, on a parlé de l'irakisation. Et je dis peut-être qu'un jour, on parlera malheureusement de la syrianisation, mais pour le moment, il n'est encore venu à l'idée de personne de parler de palestinisation du Moyen-Orient. C'est-à-dire, la Palestine, ou ce qu'on appelait la question de Palestine ou la question palestinienne, n'est pas encore devenue... un modèle de division pour le monde arabe. C'est pas devenu dans la tête quelque chose qui rappelle la division. Au contraire, c'est encore quelque chose qui crée du commun. Voilà, merci.
Merci Nicolas. Donc vous avez vu la capacité de synthèse et la qualité de l'information et son côté tout à fait récent. Parce que sur le sujet, finalement, tu as pris la succession de Yazid Saïr qui avait pondu un énorme pavé qui est en anglais, qui était vraiment énorme comme ça, sur l'histoire du mouvement national palestinien, mais qui s'arrête un peu avant, à la fin des années 80, si je me souviens. Oui. Donc, entre Yazid et toi, il n'y avait rien. Voilà. Non, pratique. Hein, donc, on n'en peut que... Félicité. D'ailleurs, je vais revenir sur deux ou trois points pour plus éclaircir les choses pour le public. C'est pas des critiques. Toi. Dans le monde arabe, proche-oriental en tout cas, il n'y avait que deux situations historiques où il y avait du pluralisme politique. C'était le Liban et la Palestine, puisque le reste, c'était des régimes autoritaires qui pouvait éventuellement avoir une opposition de Sa Majesté Croupionne, mais quand il y avait une opposition, si elle voulait vraiment s'opposer, on lui faisait comprendre que la plaisanterie ne devait pas durer longtemps. Ça, c'était la méthode Moubarak en Égypte. Et alors, le problème, évidemment, l'intérêt, si vous voulez, des deux pluralismes arabes, le libanais et le palestinien, c'est que d'un côté, il ne peut exister qu'en répercutant les rapports de force internes à la région, parce que d'abord, il faut des financements. Quand il y a eu la révolution palestinienne, vous pouviez avoir tous les génies politiques et la plus grande analyse politique possible. Si vous n'avez pas de l'argent pour armer vos militants et les entretenir, vous ne restez pas longtemps sur la scène. Le Fatah a d'abord été une grosse machine à pomper des fric des pays du Golfe, pas simplement de l'argent du Golfe, mais des immigrés palestiniens dans le Golfe. Et ce qui donnait justement à Arafat sa marge de manœuvre, c'était son autonomie de financement. Il ne dépendait pas des grandes puissances. Il avait ses sources de financement. Et puis, bon, comme tous les bons chefs politiques, il était l'ordonnateur des finances. C'est-à-dire, c'est lui qui tenait le chéquier. Et il a très abondamment utilisé le chéquier. Mais il se trouvait dans une situation, il n'avait ni la volonté, ni la possibilité de faire ce qu'avait fait le FLN algérien, c'est-à-dire liquider toutes les autres forces concurrentes. D'abord, il n'en avait pas les moyens parce que les Palestiniens étaient dispersés géographiquement. Et d'autre part, il n'en a jamais eu l'intention. Il a toujours préféré le chéquier aux armes, c'est-à-dire la corruption à la guerre civile. Je crois que c'est l'essentiel de la pensée ou de l'action politique d'Arafat dans ce domaine. Du coup, toutes les autres formes politiques palestiniennes se sont toujours exprimés aussi dans des rapports avec les autres forces politiques régionales, dans les sources de financement, d'alliances, etc. Alors, à titre comparable, le Liban, c'est la même chose. Toutes les forces politiques libanaises ont toujours été financées de l'extérieur, etc. Mais, et c'est ça la particularité qu'on trouve aussi bien chez les Palestiniens que chez les Libanais, c'est que d'un côté, vous reproduisez les jeux de force régionaux, internationaux avec les financements idoines. Aujourd'hui, bon, l'autorité palestinienne est largement financée par l'Union européenne, hein, soyons clairs. C'est que de l'autre côté, ce sont des mouvements politiques qui ont des racines sociales, grassroots, on dirait en anglais. Le degré de politisation des sociétés libanaises et palestiniennes est extrême. Et les partis politiques sont aussi des structures de socialisation. Dès leur jeunesse, les enfants sont pris en charge par les mouvements politiques, quels qu'ils soient, aussi bien au Liban que chez les Palestiniens. Donc c'est le paradoxe de ces deux pluralismes arabes. D'un côté, cette dépendance sur l'extérieur, et de l'autre côté, cet extraordinaire ancrage social que ont les forces politiques palestiniennes et libanaises et qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc ça, c'est un point qui me paraît absolument essentiel à bien réinsister. Le second point, tu parles du camp de Yarmouk, bon, c'est un symbole, hein, parce qu'en même temps, l'opposition à Arafat elle ne pouvait exister que sous la protection de l'armée syrienne et dans une manipulation des services syriens. Et c'était là le drame de la gauche palestinienne, c'est qu'elle s'est toujours trouvée bloquée par les bassistes, manipulée par... etc. Et bon, le Yarmouk a montré, bon, je crois qu'on a... Les chiffres qu'on m'a avancés, c'est plus de 2000 morts palestiniens dans le camp de Yarmouk depuis 2011. Les gens du Yarmouk se sont eux-mêmes divisés dans la guerre interne syrienne et on a vu des photos absolument effrayantes du camp du Yarmouk qui nous sont arrivés avec la vieille tactique de Bachar Assad qui est tout simplement d'utiliser l'arme de la famine pour contrôler le terrain. Et c'est là où se trouve l'impossibilité de l'ONU, parce qu'elle est à la fois un symbole, une institution, une source de légitimité. Mais en même temps, quel espace politique peut-il tolérer qu'une force politique externe contrôle une partie de sa propre population ? Je veux dire, l'ONP revendique la représentation de centaines de milliers de Palestiniens au Liban, en Syrie, en Jordanie. Et donc, pour les trois pays, c'est une difficulté d'accepter qu'il pourrait y avoir une enclave même morale palestinienne sur son propre sol, sans parler évidemment des diasporas, parce que les Palestiniens, ils se dispersent toujours plus. Géographiquement, c'est le mouvement de l'histoire. Évidemment, la diaspora du Golfe, la diaspora du Proche-Orient, maintenant la diaspora européenne et la nord-américaine. Et c'est là où, en même temps, la force de l'idée palestinienne se renforce. J'avais déjà dit que le sionisme était né au moment où les populations juives avaient atteint le maximum de dispersion géographique avec la première mondialisation. C'est-à-dire qu'il y avait des juifs en Afrique, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Australie, etc. Et donc c'est à ce moment-là que l'idée nationale juive se construit. Et c'est bien pour ça que justement le projet palestinien, l'idée nationale palestinienne ne peut pas disparaître. Parce que plus les Palestiniens seront dispersés, plus le trait commun sera cette idée nationale. Mais j'ai beaucoup trop parlé, c'est une remarque, sinon on donne la parole.
Non, si vous avez des questions... Je...